Vous écoutez France Culture.
Le journal était signé Sarah Petitbon. Elle sera de retour à 9h. Bonjour à toutes et à tous.
Et moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule.
Le problème, c'est de se confirmer les sources, de les vérifier. Moi, j'avais un maître qui était Jacques de Rogy qui disait « La source unique, c'est la fin des haricots ».
Il faut absolument que le secret des sources soit protégé correctement en France, c'est-à-dire qu'il soit totalement protégé.
Évidemment que nous pouvons être l'objet de manipulations. Évidemment que l'anonymat peut poser problème.
Moi, je ne dis pas que vous avez tort. Je dis que j'ai l'impression qu'il vous manque quand même un chouïa de sources. Voilà, c'est ça qui me gêne.
Bienvenue à tous dans les coulisses de l'information. Le FN triomphant, l'UMP en implosion. La semaine écoulée restera comme l'un des moments politiques marquants de l'histoire de la Ve République. Et dans les deux cas, le rôle des médias est en question. D'un côté, le succès du Front National avec ses 25% de voix et ses 24 députés européens a suscité des critiques sur la couverture médiatique dont il a bénéficié. De l'autre, la démission de Jean-François Copé après les révélations sur le financement de la campagne Sarkozy par les factures de l'entreprise Big Malion est la conséquence directe d'un sérieux travail d'investigation de la presse. Question donc ce matin, FN, la presse est-elle responsable ? UMP, la presse ira-t-elle jusqu'au bout ? Avec nous, Pascal Richer, cofondateur et directeur de la rédaction de Rue 89, Marine Turki, journaliste politique, spécialiste du FN à Mediapart. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Marie-Ève Malouine, chef du service politique à France Info, va nous rejoindre dans un instant. Et Violette Lazare, journaliste à Libération, auteur de plusieurs révélations sur l'affaire Big Malion, sera en ligne tout à l'heure avec nous. Nous accueillons également la directrice du laboratoire communication et politique au CNRS, Isabelle Véramasson. Bonjour.
Bonjour.
Et comme toujours, l'homme des images et du multimédia, Eric Chavroux. Bonjour Eric.
Bonjour à tous.
Avec aux manettes ce matin, Thomas Jost, Mathias Mégy et Yanis Djoudad. Et avec vous toutes et vous tous pour vos commentaires sur franceculture.fr. C'est le 133e numéro du Secret des Sources sur France Culture.
Il y a une part de responsabilité qu'on ne souligne pas assez, sauf si on l'a fait un peu tout à l'heure d'ailleurs, qui est celle du système médiatique. Le système médiatique a installé malgré, a fait voter Front National malgré lui. Ce sur quoi je les critique, puisque accusé, j'aime pas ce terme encore une fois, ouais, c'est d'être totalement inconscient. Et inconsciemment, pour être dans l'air du temps, pour vendre, pour faire chic, j'en sais rien, ils ont d'abord posé cet enjeu, martelé cet enjeu, est-ce que le Front National va arriver en tête ? Mais c'était pas l'enjeu de l'élection européenne de savoir si le Front National aurait 15, 20 ou 25 députés qui, de toute façon, un, ne feront rien au Parlement européen ou presque, et deux, n'y changeront rien.
Le politologue et ancien député européen Olivier Duhamel, lundi dernier sur Canal+. Plusieurs hommes politiques ont cette semaine soulevé cette question de la responsabilité des médias dans le succès du FN dimanche dernier. Est-ce que, de fait, au fil des ans, Marine Turki, Pascal Richer, nous ne sommes pas passés d'un FN ostracisé médiatiquement à un FN survalorisé médiatiquement avec une sorte de point d'orgue pendant cette campagne des européennes ?
Le problème, c'est surtout pas d'en parler, mais comment on en parle. Et là, on a vu encore, effectivement, pendant cette campagne européenne, que ça pose problème. Parce qu'on ne parle de Marine Le Pen que pour dire que le Front National a changé, ou que pour dire qu'elle est en tête des sondages. Et surtout, il y a un nouveau phénomène, c'est qu'on voit fleurir un certain nombre d'éléments de langage de Marine Le Pen dans la bouche des journalistes, dans la titraille des articles.
Reprise du champ lexical choisi par le Front National.
Tout à fait, mais parfois sans guillemets. Un exemple, un papier, deux jours avant le scrutin, le 23 mai, qui titre « Marine Le Pen prédit un séisme politique ». Il n'y a pas de guillemets à séisme politique. Et tout l'article est décliné de cette façon-là, deux jours avant le scrutin. Ça pose problème quand même, ce côté un petit peu prophétie autoréalisatrice. D'anticiper quelque chose dont on ne sait pas s'il va l'arriver, mais les sondages le disent, alors finalement il faut l'écrire. Il y a des papiers entiers qui ont été écrits au conditionnel. Est-ce que nous, médias, on ne peut pas s'interroger quand même là-dessus ?
Reprise du champ lexical, mais pas seulement. Hein, Pascal Richer, choix des thématiques aussi du Front National. On en a vu, par exemple, des paroles et des actes il y a une semaine. Une heure de débat entre les candidats sur cette heure. 35 minutes, les 35 premières consacrées à l'immigration.
Oui,
pas le chômage, le pouvoir d'achat, les retraites, l'environnement, l'éducation. 35 minutes sur l'immigration.
Il est absurde de dire que les médias ont fabriqué le Front National. Le Front National, il est en train de germer, enfin de regermer, puisqu'il germe par spasme depuis 20 ans, alors ça gonfle, ça dégonfle. Mais là, effectivement, il est en train de gonfler. Et ça, tout le monde le sent, tout le monde le voit. Ça s'inscrit dans un contexte de politique d'austérité, dans un contexte de défiance vis-à-vis de l'Europe, dans un mal-être général, l'impression qu'on perd un peu la maîtrise de notre destin. Donc il y a un phénomène. C'est normal que les journalistes s'y intéressent, et c'est même normal, je dirais, qu'on surcouvre un peu le phénomène Front National, puisque c'est le phénomène du moment. Alors maintenant, vous disiez, est-ce qu'il y a une évolution ? Bien sûr qu'il y a une évolution. Autrefois, soit on ostracisait, comme vous disiez, soit on diabolisait. Aujourd'hui, c'est un peu différent, parce que Marine Le Pen n'est pas Jean-Marie Le Pen. Et d'ailleurs, on le voit, parce que Jean-Marie Le Pen, de temps en temps, se rappelle à notre souvenir. Il l'a fait récemment en évoquant Monseigneur Ebola dans une phrase vraiment extrêmement nauséabonde. Ce qui permet à Marine Le Pen de dire, bah, vous voyez, moi, je suis très raisonnable par rapport au passé. Donc,
la vitrine bonne cliente, entre guillemets, plus présentable, c'est ça qui joue.
Elle est beaucoup moins bonne cliente que son père. Son père était un très bon client, puisque dès qu'il disait une horreur, les journalistes adoraient ça et répercutaient. Et d'ailleurs, lui, il disait, je vous ai donné votre pitance. Quand il a parlé de Brasilia, récemment, c'est ce qu'il a dit. Je vous ai donné votre pitance. Ce qui montre bien qu'il y avait une complicité objective entre la presse et le Front National de Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, je pense, parce que Marine Le Pen, même si dans son programme, elle garde des éléments anti-républicains très sérieux, hein, je pense à la préférence nationale ou au droit du sol, à l'interdiction de manifester pour les magistrats, elle a quand même normalisé son discours. On peut pas. Elle prononce le mot république. Le mot république, c'était la gueuse autrefois. Aujourd'hui, elle est dans le cadre totalement républicain dans son discours. Donc la vitrine a complètement changé, ce qui fait que pour les journalistes, c'est beaucoup plus compliqué.
Mais encore une fois, sur le fait aussi de retenir les thématiques prônées par le Front National, parce que je citais des paroles d'Isaac de la semaine dernière,
mais c'est quand même la moitié du débat.
Consacré à l'immigration quand en premier voyez, sujet, oui, c'est, ça veut dire adopter les thématiques du Front National.
Le gouvernement Sarkozy, qui a fait toute la fin de son quinquennat sur des thèmes d'identité nationale, d'immigration, de sécurité. C'est pas la presse qui reprend les thématiques du Front National. C'est la classe politique dans son ensemble. Donc il ne faut pas se tromper de procès.
Est-ce qu'il y a aussi, comme le disait Marine Turquie tout à l'heure, un choix de la priorité accordée au sondage avec ce qui comporte, Marine Turquie a employé la formule de prophétie autocréatrice. C'est-à-dire que bon, ça crée ce sentiment d'une puissance inarrêtable du Front National.
Moi, je ne crois pas à cela. Je pense que la presse, les sondages, tout ça n'ont pas l'influence qu'on leur prête. Si vous voulez, quand toute la presse était en faveur du traité constitutionnel européen, les Français ont voté contre. En général, les Français ne votent pas dans le sens de la presse. Donc, si vous voulez, les phénomènes politiques, je pense, échappent complètement à l'influence de la presse ou des sondages.
Marine Turquie ?
Mais l'une des raisons de la victoire de Marine Le Pen, c'est qu'elle a réussi à surmobiliser son électorat. Et pourquoi ? Parce que pendant une semaine précédant le scrutin, elle raconte que cette fois-ci, il y a une victoire qui est possible. Cette fois-ci, si son électorat se mobilise, alors que c'est un électorat eurosceptique, voire europhobe, donc pas facile à mobiliser sur un scrutin comme le scrutin européen, s'il se mobilise, la victoire est possible avec ce slogan du premier parti de France. Les affiches étaient déjà prêtes, mais elles étaient aussi prêtes dans les titre des médias. Après, de manière plus générale, je trouve que le problème du traitement médiatique du FN, il se pose dans les deux sens. Il y a un mouvement très passionnel et pas du tout serein et calme et enquêté sur le Front National avec un mouvement de balancier, c'est-à-dire d'un coup, on va dire attention, le FN a changé en fait, est rentré dans le storytelling de Marine Le Pen depuis maintenant 4 ans. Et puis de l'autre, on va pouvoir dire dans le même temps, ah, dérapage sur Facebook, en fait, tel candidat est raciste. Tout ça, les chercheurs le disent mieux que nous, journalistes, c'est un parti qui rend fou et qui rend hystérique. Donc il faut se poser un petit peu et avoir un traitement plus factuel, c'est-à-dire revenir non seulement au décryptage des propositions, on le dit à chaque fois, mais c'est pas assez fait, la preuve. Là, on l'a vu pendant ces européennes, hein, les propositions de Marine Le Pen n'ont pas du tout été assez décryptées parce qu'on pense que c'est évident que c'est absurde de vouloir sortir de l'Union européenne et on ne l'explique pas. Et l'autre point, c'est l'enquête. Il y a eu quand même une information judiciaire ouverte sur le micro-parti au service de Marine Le Pen.
On va en reparler tout à l'heure, voilà, hein. Jeanne.
Pour escroquerie en bande organisée, faux usage de faux. Il y a aussi une enquête préliminaire ouverte sur le patrimoine de Jean-Marie Le Pen. Tout ça, c'est des enquêtes qui sont nécessaires. On en reparlera peut-être tout à l'heure, effectivement.
Et quand on parlera aussi des enquêtes sur l'UMP. Il y a aussi la force de certaines images retenues ou même valorisées par les médias. Éric Chavot, vous qui chaque semaine, dans le secret des sources, décryptez les images marquantes de la semaine. On s'arrête forcément sur cette une du quotidien Libération de lundi matin, après le scrutin. Donc, on l'a ici sous les yeux dans le studio. Elle a suscité quand même une certaine controverse dans la presse cette semaine.
Une avec ce titre « La France FN » et puis à l'image, on a Marine Le Pen debout, radieuse, qui ouvre ses bras comme si elle allait saisir tous ceux qui ont voté pour elle ou comme si elle s'adressait à ceux qui pourront le faire à l'avenir. Et à sa droite, deux grandes étoiles jaunes européennes, dont une qu'elle semble lancer en l'air. Alors tout ça, ça crée la polémique parce qu'il y a de nombreux lecteurs, mais aussi des journalistes de Libération qui vont très vite critiquer cette une, sensationnaliste, racoleuse, fausse, décourageante. Pascal Richer, d'ailleurs,
ici présent,
vous-même,
critiqué sur Twitter, je crois, c'est ça.
Vous l'avez critiqué, vous l'avez comparé à une de Valeurs Actuelles, au moment où Libération cherche à reconquérir un lectorat de gauche. Et puis sur Canal+, on l'entendait tout à l'heure, le politologue et ancien eurodéputé Olivier Duhamel, a lui vu une invraisemblable, une affiche carrément pour le Front National, en disant que Marine Le Pen pouvait très bien s'en servir et l'imprimer à 1 million d'exemplaires. Alors tout de suite, quasiment à la mi-journée, François Sergent s'est défendu en ligne sur le site.
Directeur de la rédaction de Libération.
De cette une. Il a expliqué ne pas avoir voulu, je le cite, de métaphores pathologiques comme cancer ou virus qui donneraient l'illusion que le FN est une maladie qui peut être extirpée, soignée ou guérie. Pas de une non plus plate ou pléonastique comme choc ou séisme. Et il ajoute qu'à cette France FN, nous croyons qu'il faut apporter des réponses politiques et sociales, car ni la démonisation, ni l'excommunication, ni le dédain pour ces électeurs égarés n'a fonctionné. Il n'empêche que le lendemain, mardi, la une de Libération sera cette fois une Marianne qui hurle, avec le titre en grand « FN réagir ».
Alors ça, c'est un exemple, c'est cette une de Libération de lundi matin, et plus largement, on va dire que le sourire de Marine Le Pen s'est affiché partout dans la presse.
Et en particulier, une photo de la présidente du Front National au soir des résultats à son QG, Marine Le Pen triomphante face à la presse, presque hilar, avec sa joie éclatante. Cette photo, elle s'est retrouvée notamment à la une du Daily Mail en Grande-Bretagne, du Dagens Nyheter en Suède ou encore du Corriere della Sera en Italie. Et ce qui est intéressant à signaler, c'est qu'en revanche, en Allemagne, le même événement a été choisi par Bild, pour son site, le quotidien Bild. Mais cette fois, c'est une photo différente, avec un sourire plus contraint, plus figé. Et il y a un texte qui accompagne et qui dit, je cite, que le poison blond est en ordre de marche.
Bonjour à Marie-Ève Malouine qui nous a rejoint, chef du service politique de France Info. Est-ce qu'on n'est tout simplement pas, si on prend ces images, sur le fait que la presse renvoie désormais une image positive du Front National, souriante ?
La presse, ben oui, mais c'est factuel. Marine Le Pen est souriante. C'est vrai que la presse, elle essaie de faire son boulot avec le Front National, pas assez sur le fond, pas assez sur les idées et le programme. Le problème aussi, c'est que la presse, elle est un participant, elle est de la vie démocratique, mais elle n'est pas le seul acteur. Et quand les hommes politiques, à droite comme à gauche, ne savent pas comment réagir par rapport au Front National et réagissent mal, ben la presse, elle
ne se positionne par rapport à ses thématiques à lui.
On a d'un côté la gauche qui se donne bonne conscience en défilant en 2002 pour dire « arrêtons ça », mais qui ne cherche pas à parler aux électeurs du Front National et qui vient même des années tapis qui disaient aux électeurs du Front National que c'était des salauds. Et de l'autre côté, on a la droite qui se dit « les électeurs du Front National ont raison, donc reprenons leurs arguments ». Mais en fait, personne ne retourne sur le terrain voir les électeurs du Front National, comprendre pourquoi ils votent comme ça et tarir la source de ce vote. Et non pas l'excommunier, non pas leur dire qu'ils ont tort, sans leur proposer autre chose. Et ça, personne ne le fait. La presse qui rend compte, elle est un peu étriquée et elle est un peu dans ces unes de Libé qui donnent le sentiment de valoriser alors qu'elles veulent provoquer. Et tout le monde est un petit peu à côté de la plaque, la presse, comme les hommes politiques à droite et à gauche.
La presse est-elle responsable dans le succès du Front National dans la première partie du Secret des Sources ce matin? Et pour comprendre la relation complexe des médias avec le Front National, vous citiez cet épisode évidemment, Marie-Ève Malouine, il faut revenir en arrière.
L'onde de choc, Jean-Marie Le Pen, sa présence au second tour met la France à la une des journaux du monde entier. À gauche comme à droite, un front républicain est en train de se constituer. Les Verts, le PC, le PS,
l'UDF et France 2 le 22 avril 2002, mais il faut en fait remonter plus loin jusqu'à l'émergence vraiment du Front National, on va dire il y a 30 ans. Isabelle Véramasson, vous dirigez, je le rappelle, le laboratoire communication et politique au CNRS. 30 ans de relations complexes entre le Front National et les médias. 30 ans aussi que la profession journalistique s'interroge et se pose des questions sur sa responsabilité. Sur le sujet. Ce n'est pas une question que les journalistes ont en fait éludée, mais c'est une question face à laquelle les réponses ont varié et ne sont pas nécessairement unanimes.
Oui, il ne faudrait pas croire que les journalistes sont passifs et ne font que refléter ou que être l'écho ou le chien de garde du phénomène Front National. Je crois que les journalistes se sont regroupés, ont discuté, ont élaboré presque des stratégies face au phénomène Le Pen depuis les années 80, hein, depuis que Jean-Pierre Stirbois est élu, carrément à Dreux, que Le Pen, Jean-Marie, fait des scores à la télévision, parce qu'effectivement c'est une bête politique et qu'on sait que les gens vont le regarder, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on va l'approuver, hein, mais on mélange tout. Et donc il y a donc une réflexion de la part des journalistes avec pas mal de tâtonnements. Moi je trouve que la une de Libération, c'est un des tâtonnements de la presse, c'est-à-dire qu'on est passé effectivement par cette idée que les médias sont essentiels et donc il faut qu'en ne parlant plus du Front National, eh bien ça fera disparaître le phénomène. En réalité, sans en parler, le phénomène continue à exister et même à sortir d'autant plus violemment qu'on ne l'avait pas annoncé. Parce que là, vous dites tout à l'heure, il ne fallait pas faire l'écho du discours de Marine Le Pen disant je vais gagner. Mais rappelez-vous, en 2002, on a reproché aux journalistes de ne pas avoir dit que Jean-Marie Le Pen risquait de gagner. Parce que dire le Front National va gagner, ça peut aussi faire réagir les gens. Après, si on ne leur dit rien, il
risque de l'avouer. Le journalisme de sondage est nocif. Pourquoi citer pendant une semaine des sondages c'était la grande majorité des articles quand même, hein, quand vous regardiez à quelques jours du scrutin. Où étaient les analyses, le décryptage? Où était l'enquête? Où était le décryptage des propositions aussi? Pour moi, le reportage et l'enquête, c'est sur ces deux jambes qu'on doit marcher. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est que la majorité des articles, c'était du relais de sondage. On avait déjà décidé que le FN allait être en tête et que son électorat allait être surmobilisé avec des articles conditionnels. Donc moi, c'est vrai que je trouve qu'il faut qu'on s'interroge là-dessus.
Mais parce qu'est-ce qu'il n'y a pas une forme d'effet balancier, autrement? C'est-à-dire qu'on est passé encore une fois d'une période où les journalistes ou une partie de la presse ont tenté de contenir le Front National, de l'isoler,
et de
l'ostraciser même parfois, de le sous-exposer, effet balancier, surexposition.
On donne la parole. Alors il y a eu toute une période où on donnait la parole au Front National, mais en l'attaquant, et donc il n'était pas traité comme un parti comme les autres, et il y avait un ton très particulier qui rendait presque sympathique la personne qu'on agressait. Donc il y a eu encore une fois un effet boomerang un peu compliqué. Donc les journalistes se sont dit, il faut traiter le Front National comme un parti comme les autres. Donc on leur donne la parole, on ne les attaque plus. Mais alors on a eu le sentiment une corrélation entre le fait de donner beaucoup la parole au Front National et puis d'excellents résultats. De là à dire c'est parce qu'on leur a donné la parole qu'ils ont d'excellents résultats, on voit bien qu'on fait, à mon avis, trop rapidement le lien.
Effet balancier, Marie-Ève Malouine, France Info, Pascal Richer, rue 89.
Sortir de l'idée qu'on combat le Front National uniquement dans le traitement de l'actualité politique. Le Front National, il n'est pas dans un électorat qui est forcément très politisé. Et c'est aussi le traitement des autres sujets qui peut alimenter le Front National, le sentiment d'exclusion, de rejet, de vivre dans une société qui ne vous entend pas. Et ce n'est pas uniquement dans le traitement de l'actualité politique, c'est aussi... C'est dans le traitement politique quand, par exemple, on a ce que j'appelle le journalisme de notaire où on dit « Ah, il avait dit blanc il y a 3 semaines, aujourd'hui il dit noir, donc il n'a pas dit la même chose et on s'arrête là ». Ce qui nous intéresse, c'est peut-être de savoir pourquoi ce point de vue a changé plutôt que s'arrêter à la contradiction. Et puis, il y a le développement du traitement des faits divers en brut, sans leur donner un sens, et toute une information qui ne cherche pas le sens des choses et qui ne parle pas non plus, des sujets qui intéressent vraiment les gens, de leur vie quotidienne, vraiment leurs préoccupations. Et ça aussi, je pense que ça alimente tout autant le vote Front National que le traitement purement politique du Front National.
Pascal Richer, rue 89.
Il faut aussi s'interroger non seulement sur les succès du Front National, mais sur l'échec des autres partis qui ont laissé filer leurs électeurs vers le Front National et se demander pourquoi. Ce qu'a fait le Parti Socialiste depuis quelques années, c'est d'abandonner, disons, son substrat électoral ouvrier. Très clairement, hein, on voit tous les analystes, les chercheurs constatent cette évolution. Et ça, c'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire que le principal parti de gauche, en théorie, plus maintenant, mais bon, principal parti de gauche, perd sa base ouvrière et ne fait rien, absolument rien, pour la conserver.
Mais pour en revenir aux médias, Isabelle Vera-Masson, c'est ce que disait Marie-Ève Malouine juste avant, une difficulté aussi des médias, en tout cas des médias classiques, on va parler des réseaux sociaux après, à s'adresser à l'électorat du Front National, qui n'est pas nécessairement un électorat qui va écouter ou regarder ou lire ces médias classiques.
Alors ça tendrait à penser d'ailleurs que les médias auraient moins d'influence qu'on peut l'imaginer, contrairement à ce que je terminais mon propos, puisqu'en fait les gens qui votent le Front National sont plutôt des gens qui ont peu de contact avec les médias.
sur les catégories sociales qu'on connaît bien, c'est-à-dire les jeunes qui ne lisent pas les journaux, qui n'écoutent pas les émissions d'information et les débats, etc. Ce sont les ouvriers, les personnes les moins diplômées également, les plus réfractaires aux questions touchant à l'actualité. Donc, il faudra passer par les opinion leaders, comme on dit chez nous, pour que ce qui se dit dans les médias passe à l'intérieur du Front National. Autant dire peu d'influence. Donc, effectivement, ça limite complètement le rôle éventuel des médias, ces catégories socioprofessionnelles.
Et à l'inverse, Éric Chavroux, sur les nouveaux médias, qui ne sont plus si nouveaux, en tout cas les réseaux sociaux, là, une tendance qui profite au Front National, parce qu'il est très actif et la campagne des Européennes vient à nouveau de le démontrer.
Oui, il y a une étude qui vient de révéler que le Front National avait été le parti le plus cité pendant la campagne sur Twitter. Il y a 400 000 tweets qui ont été analysés pendant un mois, l'initiative de l'agence Images et Dialogue, du site d'information Contexte et du think tank Renaissance Numérique. Et pour les partis comme pour leurs représentants, le FN arrive en tête avec 22% des mentions contre 15% à l'UMP et 13% pour le Front de Gauche. Alors il faut quand même faire très attention avec ces chiffres et cette étude, parce qu'il faut signaler que d'une part, on ne sait pas, on n'indique pas le contenu, donc à savoir si ces messages étaient positifs ou négatifs, ni non plus de qui ils émanaient. Or, on l'a dit et répété.
Du bruit médiatique.
Ouais. Voilà, on l'a dit et répété plusieurs fois ici. Le FN et ses militants sont maîtres en la matière pour pouvoir émettre comme ça des messages sur Twitter. Et puis, dernière nuance, si Twitter a une caisse médiatique de résonance parce que les journalistes le suivent de près, c'est loin d'être encore le cas pour le grand public.
Et le Front National, on peut le préciser aussi en quelques mots, Eric, vient de lancer son propre réseau social, c'est ça?
Oui, alors ça s'est fait tout à fait discrètement. C'était 15 jours avant le scrutin. Là. Ça s'appelle Les Patriotes, sans logo du Front National. C'est très discret aussi.
Là aussi, choix lexical d'ailleurs. Hein. Patriote plutôt que nationaliste, là, il y a une évolution lexicale. Enfin, on pourrait faire un petit encadré là-dessus du Front National.
C'est très discret à l'écran. Ça permet évidemment d'échanger entre membres, d'avoir son blog. Et puis aussi, il y a un appel à liker, aimer la page Facebook de Marine Le Pen, alors qu'elle compte déjà 375 000 j'aime et que la page du Front National est celle qui compte le plus de j'aime de tous les partis français. On se demande du coup pourquoi le Front National a lancé cette initiative-là, d'autant que l'EPS et l'UMP l'avaient précédé il y a déjà quelques années, que l'UMP, ça avait été un flop complet, ça lui avait coûté plus d'un million d'euros. La réponse, c'est sûrement la masse de données personnelles récoltées, puisque en fait, quand vous vous connectez à ce réseau social, on vous pose plein de questions qui pourront tout à fait servir dans la perspective des régionales et de la présidentielle.
Alors, on vient d'explorer un peu les glissements du discours médiatique, mais reste que les relations entre le Front National et les journalistes peuvent aussi, aujourd'hui encore, rester parfois très tendues, voire franchement conflictuelles. On va prendre un exemple récent.
Le système, madame, ce sont ceux qui veulent que les choses ne changent pas. Voilà. Ce sont ceux qui en croquent,
ce sont les
qui
élites.
En vivent.
Ce sont les élites ?
Oui, bien sûr, les élites autoproclamées. Pardon, les élites autoproclamées. Alors vous allez retrouver là,
vous
allez retrouver là
estimez...
la caste politique qui fait tout pour que le système perdure, d'ailleurs que surtout on ne change rien. Il y a là les journalistes, il y a les experts, les économistes qui viennent sur les plateaux télé.
Est-ce que bien vous sûr, dites, vous dites que les élites
se reproduisent,
s'auto-reproduisent.
Il y a des pouponnières comme
ça.
L'ENA, Sciences Po.
Mais est-ce que le Front National, c'est
pardon,
pas...
Pardon, vous n'avez pas fait Sciences Po, j'espère.
J'ai fait Sciences Po, mais je n'ai pas fait l'ENA, vous voyez.
Zut.
Voilà.
Bon.
Et Marine Le Pen, je suis très heureuse d'avoir passé le concours de Sciences Po et de l'avoir réussi.
C'est mais je suis ravie.
Marine Le Pen prenant à partie notre consoeur Apolline de Malherbe sur BFM il y a deux semaines, la contraignant, vous l'entendez, à se justifier sur son parcours personnel. Ça dure encore plusieurs minutes. Hein. Derrière, il est question du chevénementisme un peu plus tard. Alors, il y a deux façons de regarder cet épisode. Mais le premier, c'est qu'il révèle ce dont, d'ailleurs, on a eu confirmation cette semaine par une anecdote racontée par Le Point, que le Front National n'hésite pas à préparer assez sérieusement des fiches sur certains journalistes. Marie Malouin, Marine Turquie.
C'est pas nouveau. Moi, j'ai vu ça. J'étais à Marseille il n'y a pas plus de 20 ans et j'avais trouvé un élu du Front National qui connaissait très bien ma vie privée. Et ils font des fiches, ils savent... C'est le béaba de savoir, nous-mêmes, les journalistes, quand on va interroger quelqu'un, on se renseigne sur ce qu'il va pouvoir dire. Ben, alors, le Front National se renseigne sur qui on est pour savoir sur quoi ils peuvent attaper. Ils sont intelligents et ils sont professionnels, même dans le langage. Ils reprennent des mots et qui lancent dans le débat le Bleu Marine, l'UMPS, la caste politique, les partis classiques. Nous-mêmes, quand on parle des partis classiques par rapport au Front National, ça veut dire que le Front National est un parti qui n'est pas classique, qui a donc un autre langage peut-être plus vrai. Quand on parlait du parler vrai, eh ben le Front National s'accapare tout ça. Et puis, ils savent très bien comment déstabiliser, là, dans l'exemple en question, ça déstabilise. Et puis ça répond aussi à un sentiment qu'il y a dans l'opinion, c'est que les journalistes à Paris sont entre eux, ne connaissent pas leurs soucis, ne connaissent pas leurs problèmes. Quand le prix de l'essence baisse à Paris, on s'en fiche, on peut prendre le métro ou de toute façon on n'a pas de voiture. En province, les gens qui ont quitté le centre des villes pour avoir une vie plus agréable et une maison dont ils peuvent s'occuper, le prix de l'essence, ça veut dire quelque chose et on l'a sous-traité. Au niveau national, parce que c'est un problème qu'on ne connaît pas.
C'est l'autre façon de regarder cet épisode qu'on vient d'écouter, c'est le voir avec le regard du Front National. Parce que quand Marine Le Pen dénonce l'existence d'une élite médiatico-politique où il y aurait une forme de porosité des valeurs et des idées entre les journalistes parisiens, on va dire, et l'UMPS, elle n'a pas tout à fait tort non plus, si ?
Non, il y a des études qui montrent. En plus, qu'en France, ça ne touche pas que les médias. Les différents secteurs sociaux, les enfants de journalistes deviennent souvent journalistes, les enfants de médecins deviennent médecins, et c'est un phénomène qui s'est renforcé en France. Donc elle constate quelque chose qui est...
Il y a des énarques à la tête du FN maintenant.
Maintenant, il y a des énarques. Mais là, c'est interprété de façon positive. Ça veut dire que, justement, ils imprègnent toutes les couches de la société.
Là-dessus, Marine Turquie, Pascal Richer.
Moi, ce qui me gêne plus, qu'on parle de l'éloignement des médias, qu'on fasse, nous, notre autocritique sur notre travail, je suis complètement d'accord. Là, on parle quand même d'un parti qui, visiblement, ficherait les journalistes. C'est ce qu'a révélé Le Point, là, cette semaine, dans cet encart dont vous parlez. Ça pose quand même question, et d'autant que c'est une pratique à l'extrême droite qui est répandue. Moi, j'ai déjà ma fiche sur un site d'extrême droite où il y en a des tonnes et des tonnes de pages sur des éléments trouvés sur moi à droite et à gauche. Là, visiblement, il y aurait des éléments de vie privée, de où habitent les journalistes dans ces fiches, pour pouvoir effectivement lancer au cours d'une conversation aux journalistes qu'on sait certaines choses. Ça me dérange beaucoup plus. Et ça va avec une autre pratique du Front National qui est de décider que certains médias ne peuvent pas rentrer dans leurs conférences de presse. Il y a Canal+, il y a Mediapart, demain, ça sera un autre média, sans que ça n'étonne plus personne ou presque.
Oui, mais en même temps, la dénonciation de cette élite et de cette porosité, elle est quand même fondée sur des éléments objectifs, Pascal Richer.
Bien sûr, enfin, je veux dire, elle existe. Hein. La porosité entre les journalistes et le monde politique existe. Et même le monde...
Le monde politique, encore une fois, des partis de gouvernement, pour l'essentiel.
Des partis de gouvernement, bien sûr. Et c'est un problème, enfin, on en a parlé plusieurs fois dans votre émission, c'est pas Marine Le Pen qui l'a inventé. Alors après, elle s'en sert et elle le tord avec des mots qui sont des mots odieux. Quoi. Quand elle parle de caste, qui se reproduisent, c'est des mots que n'aurait pas... déshériter son père, si je puis dire, puisque son père adorait ce genre d'expression. Mais bon, le phénomène est là. Et ça, bon, alors, pour le coup, ça, effectivement, ça contribue, on peut dire que ça contribue, c'est un des éléments, parmi bien d'autres, qui contribue à la montée du Front National. Mais je rejoins ce que disaient mes consoeurs sur cette histoire de fichier, c'est assez grave quand même. Si effectivement il y a un fichier qui porte sur les opinions religieuses, sur les opinions politiques, sur la vie privée de journalistes, c'est extrêmement grave. Et moi, j'espère qu'il y aura une enquête très sérieuse sur ce sujet de la justice, de la CNIL. Alors nous, on a appelé la CNIL, visiblement, ils n'ont aucune trace d'un quelconque
informatique et liberté.
Fichier. Donc c'est extrêmement grave.
Pascal Richer, rue 89, Marie-Ève Malouin, France Info, Marine Turquie, Mediapart sont ce matin dans Le Secret des Sources sur France Culture, avec également Éric Chavroux et Isabelle Véramasson. FN, la presse est-elle responsable? Comme toujours, vous commentez sur franceculture.fr. Dans un instant, Violette Lazare de Libération va nous rejoindre par téléphone pour évoquer l'autre grosse actualité politique de la semaine écoulée, la crise à l'UMP, déclenchée en grande partie par les enquêtes de la presse sur le dossier Big Malion.
40% des 18-25 ans n'ont pas voté. 40% des 18-25 ans n'ont pas voté.
L'inimaginable se produit.
Vous imaginez si il est président, ce que ça va devenir la France? Franchement, vous imaginez? La jeunesse comme nous? Il n'y a plus de France.
Juste après ce titre anti-FN de Saez, symbole d'un milieu de la chanson qui reste hostile au Front National, Fils de France.
J'ai vu les larmes aux yeux. Les nouvelles ce matin, 20% pour l'horreur, 20% pour la peur, ivre d'inconscience, tous
de France. Je salue Violette Lazard, journaliste à Libération, en ligne avec nous par téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez grandement contribué avec Mélanie Delattre et Christophe Labbé Dupont aux révélations sur l'affaire Big Malion. Elles ont conduit cette semaine, au lendemain des européennes, à la démission de Jean-François Copé de la tête de l'UMP. Dans la foulée des révélations sur le rôle joué par cette entreprise de communication dans le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, via des factures donc réglées par l'UMP, montant total entre 10 et 13 millions d'euros, qui semblent donc avoir été dissimulées afin de ne pas figurer dans les 10 comptes de campagne. On peut aussi voir dans cette affaire un lien avec le résultat historiquement haut du Front National, lien établi lundi par l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud, interrogé par Jean-Pierre Elkabbach.
Tout le monde a sa responsabilité, la classe politique en a une écrasante, mais la classe médiatique aussi. Où sont les espaces pour débattre, pour mettre des idées sur la table, pour en discuter, des idées nouvelles, des idées neuves, pour transgresser un peu la pensée unique et les orthodoxies? En réalité, nulle part. Et qui passe son temps à nourrir le tous pourri? Alors il y a des partis protestataires qui en font leur fonds de commerce, mais il y a aussi la presse, il y a aussi les médias.
Violette Lazard, c'est évidemment votre rôle de journaliste d'investigation de sortir ce genre d'informations, et on va parler des conditions de cette investigation sur le dossier Big Malion. Mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment faire abstraction, on va dire, en responsabilité citoyenne? Peut-on faire abstraction du fait que toutes ces révélations profitent mécaniquement au Front National en entérinant l'idée d'une classe politique majoritairement corrompue?
Écoutez, moi, les réactions comme celles qu'on vient d'entendre de Monsieur Guénaud me font toujours un petit peu sourire parce qu'elles permettent de parler d'autre chose. Au lieu de parler du problème, au lieu de parler de ses factures, au lieu d'essayer de comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui, c'est la faute des médias, c'est la faute des révélations, c'est... Voilà. Donc moi, je... Que vous dire? Ce genre de choses me fait... me rend un petit peu perplexe.
On va évidemment pas vous demander vos sources, mais on voit bien qu'il y en a de sérieuses, vu ce que vous publiez depuis plusieurs jours et plusieurs semaines. Et pour vous, ces sources, justement, ça fait un lien avec la question précédente, ces sources, est-ce qu'elles cherchent juste à vous donner des infos, à se dédouaner elles-mêmes peut-être de leur mauvaise conscience, je sais pas, ou est-ce qu'elles peuvent aussi avoir un agenda politique, en l'occurrence un agenda qui profiterait au Front National?
Alors, en l'occurrence, là, effectivement, je ne vais pas vous donner mes sources. Il peut arriver, et on le sait, qu'on soit manipulé par nos sources. Hein, je veux dire, c'est évident, et surtout sur des sujets politiques comme ça. Bon, là, il se trouve que ce n'est pas du tout le cas. Là, il se trouve que, sans rentrer dans les détails, c'est une enquête sur laquelle je travaillais depuis plusieurs semaines. Et l'agenda que j'ai respecté, c'est le mien, c'est-à-dire le temps qu'il me fallait pour vérifier mes informations, les recouper, tenter de les rendre compréhensibles, hein, parce que des fois, quand on a une matière brute comme ça, on la comprend pas toujours. Donc mon agenda, c'était celui-là. C'était pas un agenda politique. J'ai suivi le mien.
Pascal Richer, j'ai envie de demander le sentiment du directeur de rédaction que la presse est un rôle de chien de garde. Et c'est une évidence. Et en même temps, est-ce qu'on peut complètement faire abstraction de la responsabilité citoyenne et de ce risque d'enchaîner mécaniquement le cliquetis du tous pourri, quoi, en publiant ces enquêtes-là? Il faut qu'on se pose la question quand même. Enfin, c'est... Non.
Non, enfin, moi, je ne trouve pas. Moi, je pense que quand il y a un scandale, il faut le révéler, hein, quelles que soient les circonstances. Si on commence à s'auto-censurer parce que le Front National monte dans les sondages, bah, le journalisme n'existe plus et derrière, la démocratie n'existe plus. Ce qu'il faut, c'est que ces affaires cessent. Il y a des pays où il y a beaucoup moins d'affaires qu'en France. Je pense aux pays scandinaves, tout le monde y pense, évidemment. On peut aller dans cette direction. Il faut que ça cesse. Il faut que les pratiques cessent dans les partis. Il faut qu'ils arrêtent de détourner de l'argent, de jongler avec leurs finances, de faire des caisses noires, de se laisser corrompre. Il faut que ça cesse. Et il faut que le travail des journalistes, c'est de montrer, quand ils s'écartent du droit chemin, c'est de le montrer.
Cette affaire Big Malion, elle a aussi un peu basculé cette semaine dans le domaine de l'infospectacle, on va dire, avec la couverture quasiment en direct du bureau politique de l'UMP mardi, avec auparavant, la veille au soir, cette confession en direct sur BFM Télé de Jérôme Lavrieux, proche de Jean-François Copé, ancien directeur adjoint de campagne de Nicolas Sarkozy.
Le problème, c'est que ces dépenses sont plafonnées et qu'au-delà d'une certaine somme, on ne peut plus les intégrer dans le compte de campagne, et il y a eu un dérapage. Mais quand vous êtes pris dans un engrenage de campagne électorale, le reproche que je me fais, c'est que j'ai pas eu le courage à un moment de dire stop, on en fait trop. On en fait trop, on va dans le mur. J'ai commis cette erreur.
Étrange moment de télévision. On était presque même un peu mal à l'aise face à ce moment-là, Isabelle Vérin-Masson. Cette confession publique presque intime, spectacle, information, et encore une fois, à qui profite le crime? Enfin, toutes ces questions-là sont posées face à ces moments-là, non?
Oui, alors ce qui est terrible, c'est qu'on est devenus des experts en analyse du mensonge. C'est-à-dire qu'on regarde ces confessions médiatiques les unes après les autres en se demandant...
Il s'appelle souvent Jérôme, hein, il se prénomme souvent Jérôme. Mais...
en se demandant s'il ment vraiment, sur quel point il ment, et comment est-ce qu'on voit le mensonge, etc. On est tous des experts médiatiques et de plus en plus, effectivement, du mensonge. Moi, j'ai été très frappée par l'intervention de Jean-François Copé, parce qu'il a choisi, d'une certaine manière, de se dégager des communicants, contrairement à ce qu'avait fait Cahuzac ou ce qu'avait fait Dominique Strauss-Kahn. Et là, j'ai trouvé que c'était très dur pour les communicants, parce qu'il est apparu avec une espèce d'honnêteté apparente, de mal à l'aise, quelque chose qui sonnait vrai, qui sonnait juste, parce qu'il n'y avait pas ces mots préparés, martelés, ces expressions totalement ordonnancées qu'on avait vues dans les, entre guillemets, mensonges précédents.
Avec la démission de Jean-François Copé, il y a donc eu une victime, Violette Lazare. Hein, le sang a coulé, pouce en bas. Les médias aiment bien que le sang coule un peu. D'où ma question, est-ce que la presse, du coup, va avoir la tentation d'en rester là? Ou est-ce qu'elle va poursuivre son investigation sur le sujet? Est-ce que vous allez continuer? Parce que de multiples questions restent posées malgré la démission de Jean-François Copé.
Jean-François Copé est victime, oui, enfin, de la presse, je sais pas, en tout cas victime des fausses factures et victime peut-être des personnes de son propre parti. Voilà, c'était juste pour rebondir sur la question de la victime et du sang. Est-ce que la presse va continuer? Bah, bien sûr, la presse va continuer. Oui, c'est notre travail. En tout cas, moi, c'est mon travail. Moi, je vais continuer. Je pense que toutes les réponses n'ont pas été apportées aujourd'hui.
La première d'entre elles, c'est qui savait quand même, hein? Qui savait que c'est... La première des questions, c'est qui savait que ces factures étaient détournées? Parce qu'on a beaucoup retenu de l'intervention de Jérôme Lavrieux qu'il portait le chapeau. Mais quand on réécoute cet entretien, en réalité, il dit qu'il n'était pas le seul à savoir.
Oui, mais bien sûr qu'il n'était pas le seul à savoir. Enfin, je veux dire, c'est en tout cas, de ce postulat-là qu'on doit partir aujourd'hui. Il n'était pas le seul à savoir. Qui savait? Qui a décidé? Qui était là au moment où ces fausses factures ont été décidées? Et une autre question se pose, est-ce que tout cet argent, donc plus de 10 millions, hein, 13 mois selon mes calculs, a vraiment servi à masquer les dépassements de comptes de campagne de Nicolas Sarkozy? Parce que c'est l'argument qu'il nous donne aujourd'hui, qu'il nous apporte un petit peu sur un plateau. Voilà, cet argent, c'est ça. Le coupable, c'est moi, Lavrieux, et Copé saute parce qu'il ne pouvait pas ne pas être au courant. Mais est-ce qu'on peut s'arrêter là? Je ne pense pas.
Quelle est l'autre hypothèse? L'enrichissement personnel? C'est ça que vous voulez dire?
Il y a plusieurs hypothèses, moi, que j'avais évoquées dès le début. Alors, on ne sait pas, on n'a pas de réponse pour le moment, mais oui, il y a l'enrichissement personnel. Et il y a... aussi la thèse des rétrocommissions. Alors, en clair, ce serait, est-ce qu'il y a de l'argent qui a été mis de côté dans cet argent que l'UMP a versé à Big Malion pour constituer un éventuel trésor de guerre en vue de prochaines élections? On ne peut pas l'exclure aujourd'hui. On ne sait pas où il est allé, cet argent.
Pascal Richer, Marie-Ève Malouine, est-ce qu'il peut y avoir une tentation quand il y a une victime quand même importante? Jean-François Copé, c'est une victime importante, entre guillemets. Est-ce qu'il peut y avoir une tentation de la presse de dire, bon, de baisser un peu, de poser un peu les crayons, quoi? De dire, bon, bah, c'est bon, on a...
Je pense pas. Je pense pas, parce que de toute façon, je pense qu'à la question, est-ce que la presse est manipulée? Sur les enquêtes d'investigation, il y a peu de personnes qui révèlent des secrets par amour de la vérité quand ils ont été partie prenante. Ils le font parce qu'ils sont contraints. Jérôme Lavrieux, il n'a pas parlé parce que tout d'un coup, sa conscience était trop lourde. Il a parlé parce que Maisonneuve l'a mis en cause.
Donc l'avocat de Big Malion.
L'avocat de Big Malion a parlé suite au papier de Libération qui avait eu des infos par une source qui, sans doute, avait un intérêt à ce que ça sorte. On a vu aussi la justice qui pouvait donner des sources pour pouvoir poursuivre son enquête. Donc la presse n'arrêtera pas parce qu'elle continuera d'être alimentée. Et puis parce qu'on recherche la vérité, qui que ce soit, qui soit atteint. Ça atteint un ministre du budget. Rien ne peut arrêter la vérité. C'est un peu grandiloquent de le dire, mais
Pascal,
c'est vrai.
Pascal Richer,
mais là, on
puis
Marine Turquie. La question de savoir qui savait, en gros, est-ce que Copé et Sarkozy savaient? Alors évidemment, tout le monde dit...
Parce que Copé,
tout...
quand même, il est quand même ancien ministre du budget.
Oui, mais
Nicolas
la question,
Sarkozy,
c'est
la dirige une campagne électorale. Il sait que la question du financement est essentielle, sensible.
Dans les films de mafia, il y a toujours le boss qui dit « je veux pas le savoir ». Il y a quelqu'un qui dérange, il dit « écoutez, vous réglez le problème, je veux pas le savoir ». Et c'est possible parce que c'est quelque chose de cet ordre-là qui s'est passé. C'est Copé et Sarkozy ont dit « je veux pas le savoir ». savoir. On dépasse le plafond, débrouillez-vous, je ne veux pas le savoir. Et après, pour prouver ça, pour la justice et encore plus pour les journalistes, c'est quelque chose de très, très difficile.
Marine Turquie, Mediapart.
Ouais, il y a eu quand même une stimulation à partir de février, à partir des révélations du Point, ce gros dossier. Beaucoup de médias se sont mis à enquêter sur le sujet et tous ces développements, parce que ça donne lieu à d'autres sujets. Et ça, je trouve ça assez sain. Je remarque en revanche que là, par exemple, cette semaine, on a eu Jean-François Copé, invité de TF1, et on a vu un présentateur, Gilles Boulot, extrêmement pugnace, très bon dans le questionnement. Et moi, je me pose une question quand même. Est-ce que quand ils sont à terre, les hommes politiques, les journalistes, notamment sur les chaînes télé, ne sont pas plus pugnaces et plus donnant un petit peu la contradiction plus fermement? Est-ce qu'on doit attendre que l'homme politique soit à terre pour poser les questions? Il faut les poser tout le temps et quels que soient d'ailleurs les partis.
Alors justement, est-ce qu'on peut espérer que ça conduise la presse à enquêter aussi sur les comptes de campagne de François Hollande et puis de Marine Le Pen aussi, enfin, ou des autres, et, enfin, je prends les principiques, parce que ça serait logique quand même.
Bien sûr,
après tout, les questions sont les mêmes,
c'est
malgré
ce que
tout.
J'évoquais, on sait très bien que
ce plafond des 20 millions et quelques pour financer la campagne, il n'est pas perçu comme très réaliste par plein de gens.
Tout à fait, et il faut cette dimension d'investigation, elle doit être sur tous les partis, même d'ailleurs au-delà du PS, de l'UMP et du Front National. Alors, je disais tout à l'heure que sur le Front National, je trouve qu'il y a peu de médias qui enquêtent. Il y a quand même l'enquête préliminaire sur le patrimoine de Jean-Marie Le Pen, il y a le micro-parti qui suscite
donc
un nombre de...
Qui s'appelle donc Jeanne, sur lequel vous
Jeanne,
avez enquêté, le Figaro Magazine aussi qui a enquêté dessus,
voilà,
mais c'est vrai, peu de médias.
Et peu de médias ont enquêté là-dessus. Sur l'UMP, pour finir, nous, on vient de publier avec ma collègue Mathilde Mathieu une grande enquête sur la NDL, qui est aussi un volet d'affaires liées à l'UMP, puisque c'est l'organisme de formation de l'UMP qui a quand même vendu à des collectivités territoriales des formations en grande partie fantômes. Et là aussi, il y a eu une perquisition lundi et ça ouvre aussi de grandes perspectives d'enquête. Ça n'empêche pas d'enquêter sur le PS, sur le Front National et sur d'autres partis. C'est même nécessaire. Mais je trouve qu'il y a une stimulation là-dessus entre journaux qui est assez saine et qui est positive.
Est-ce qu'on peut voir venir des enquêtes sur le financement des campagnes de François Hollande, de Marine Le Pen dans les semaines, les mois qui viennent, Marie-Ève Malouine, Pascal
Éventuellement,
Richer.
Enfin, je pense que de toute façon, les
campagnes vont
être... Parce
que les questions, encore une fois, sont à peu près les mêmes. Hein. Les interrogations qu'on peut se poser sont quand même similaires.
Les interrogations sur les 22 millions attribués à la campagne, il y a des chiffres qui surprenaient déjà sur la campagne de Nicolas Sarkozy. Quand on voit le montant dépensé par Nicolas Sarkozy pour les sondages, il est inférieur, je crois, de mémoire que Hollande, c'est près de 300 000 euros. Le FN, un peu moins, mais de l'ordre de 200. Et Nicolas Sarkozy, c'était une centaine. Donc, il y a des interrogations là-dessus. Les gens qui suivaient la campagne de Nicolas Sarkozy disait que c'était, quand on passe d'un meeting à l'autre, il y avait des réalisations au niveau scénique qui étaient dignes d'un tour de chanteurs de rockstar.
Il y a eu, je crois, 42 meetings en 6 mois, ce qui est un record.
45, je crois, oui.
Par rapport aux autres partis, c'était quand même
Sauf que Nicolas Sarkozy n'était pas en campagne depuis 6 mois. Donc il y avait aussi le problème de la répartition que le Conseil constitutionnel avait été amené à valider,
à critiquer,
et à juger,
oui.
Et à critiquer, puisqu'il n'avait pas été remboursé. Et puis on sait aussi qu'il y a des moyens différents dépensés en fonction que les militants sont indemnisés pour leur transport ou pas. Ça fonctionne plus ou moins sur le bénévolat. On le voit aussi quand on suit une campagne et que ce sont des militants qui vous véhiculent. Par exemple, quand la presse arrive, on nous recommande de prendre un train. Des militants nous emmènent ou il y a des bus affrétés par le parti. Bon, ce n'est pas le même prix.
Est-ce que c'est facile ou compliqué d'enquêter sur les comptes? Ou est-ce que si on les demande, tout simplement, à la commission des comptes de campagne, on les obtient et puis voilà, on vous les donne?
On peut avoir les comptes puisqu'ils sont publics, mais les comptes, par exemple, de Nicolas Sarkozy étaient publics. Mais après, il faut toujours que quelqu'un lâche.
Oui, ceux du parti
sont pas
publics.
Parce que sinon, ça sort
pas. Ceux du parti, c'est soit le parti qui parle, soit la justice.
C'est précisément toute l'histoire dans l'affaire Big Malion.
Soit les commissaires aux comptes. Mais il n'y a pas de publicité, de transparence sur les comptes des partis.
Marine Turquie.
Après, dans ces comptes, il y a beaucoup de choses quand même à regarder. Nous, par exemple, on a fait celui du Front National. Enfin, on les a tous faits, mais on a fait notamment celui du Front National. On pouvait voir quand même émerger un prestataire phare qui s'appelle Frédéric Chatillon, qui est l'ancien leader du GUD, qui est un conseiller officieux de Marine Le Pen, qui avait engrangé avec ses sociétés beaucoup d'argent. Et là, il y avait déjà des choses à explorer. Donc tout ça, effectivement, c'est public. Il faut le dire, si les gens ne le savent pas, vous allez à la commission des comptes de campagne et vous faites la demande pour tel ou tel compte. Donc il y a des possibilités quand même d'investigation. Il ne faut pas attendre d'avoir des pistes qui arrivent. Il y a beaucoup d'enquêtes d'initiatives qui sont possibles. Et encore une fois, j'insiste sur tous les partis.
Violette Lazare, Libération.
Non, je voulais juste ajouter, s'agissant des comptes de campagne, il n'est pas difficile de les avoir, effectivement. Moi aussi, je suis allée les voir, je les ai demandé, ceux de Nicolas Sarkozy, mais c'est évidemment pas dans ces comptes que, pour ma part, j'ai trouvé des choses intéressantes. Là où il aurait pu y avoir des choses intéressantes, c'est dans les comptes du parti et les comptes des partis politiques. La commission des comptes ne peut surveiller que les dépenses, que les recettes, pardon, et pas les dépenses, justement. Et c'est là où il y a beaucoup de choses qui se masquent. Et c'est là où il faut aller chercher d'autres sources et c'est là où commence le travail d'investigation.
Mais encore une fois, on a envie de voir ce même genre d'enquête sur le financement de la campagne de François Hollande, parce qu'il y a des questions qui sont malgré tout similaires, même s'il y avait peut-être une différence d'ampleur de certains meetings. Mais enfin, malgré tout, on est quand même sur des volumes qui posent question aussi, non, sur François Hollande, non?
Alors, bien sûr, on ne s'interdit rien. Enfin, moi, je m'interdis rien. Évidemment que la campagne de François Hollande m'intéresse aussi. Après, Ce genre de travail est déclenché par des intuitions, par des confidences, par peut-être aussi des choses qui nous mettent des puces à l'oreille. Il se trouve qu'aujourd'hui, là où moi j'ai senti aussi grâce à l'enquête du Point, hein, qui est sortie en février, qu'il y avait des choses à aller chercher, c'était plus du côté de l'UMP que du côté du PS. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à trouver du côté du PS, et ça ne veut pas dire qu'un jour, à Libé, on ne travaillera pas aussi de ce côté-là.
Allez, comme toujours dans le secret des sources, le dernier mot revient au clin d'œil de Yacine Bouzard. Yacine, comme toujours, mélange un petit peu tout ce qu'on vient de dire à sa façon avec une conférence de rédaction imaginaire.
Conférence de prévision, je vous veux tous dans 5 minutes dans la salle B406. Bonjour à tous, donc on fait les prêves de la semaine politique. Je vous écoute.
On fait un sujet sur le programme de l'UMP ?
Ah non, non, on s'en fout. On fait plutôt un sujet sur les fausses factures et le financement de la campagne de l'UMP. Suivant.
On fait un sujet sur le programme du PS ?
Non. Non, on s'en fout. On fait plutôt un sujet sur le scooter de Hollande. Suivant.
Bon alors, si j'ai bien compris, sur le FN, on fait un sujet sur le scooter de Le Pen et sur le financement de la campagne du FN, c'est ça, chef ?
Non, sur le FN, là, il faut faire quelque chose d'un peu dense, sérieux, hein. Sujet sur le programme du parti, l'immigration, l'abandon de l'euro. Voilà, là, on a des bons sujets. Ok, la conférence est terminée, je vous remercie.
Elle a dit, faut faire quoi pour traiter du PS et de l'UMP de manière sérieuse ?
Ouais, peut-être que nous, journalistes, on devrait rendre nos cartes d'adhérents du PS et de l'UMP et puis adhérer au FN.
Oui, c'est ça, adhérer au FN.
C'est le clin d'œil de Yacine Bouzard. FN, la presse est-elle responsable ? UMP, la presse ira-t-elle jusqu'au bout ? Vous commentez, vous réécoutez, vous téléchargez comme toujours sur franceculture.fr. Marie-Ève Malouine, Violette Lazare, Marine Turki, Pascal Richer, Isabelle Véramasson, Éric Chavroux étaient ce matin dans le secret des sources. Merci à tous. Et puis je signale donc l'apparition Marie-Ève Malouine avec le dessinateur Pharo de Moi, Président. Bande dessinée, c'est chez Jungle, c'est ça ? Voilà, on l'a sous les yeux ici. Notez aussi que demain soir à 18h15 sur France Culture, dans Dimanche et après, Olivia Gesbert recevra notamment le député européen socialiste Liemang Nok pour évoquer l'avenir de François Hollande. Dans quelques minutes après le journal de Sarah Petitbon, réplique ce matin la panthéonisation en démocratie. Alain Finkielkraut reçoit Mona Ozouf et Philippe Bellaval. Prenez soin de vous.
Le reportage et l'enquête, c'est sur ces deux jambes qu'on doit marcher. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est que la majorité des articles, c'était du relais de sondage. On avait déjà décidé que le FN allait être en tête et que son électorat allait être surmobilisé avec des articles conditionnels. Donc moi, c'est vrai que je trouve qu'il faut qu'on s'interroge là-dessus.
Moi, je pense que quand il y a un scandale, il faut le révéler. Si on commence à s'auto-censurer parce que le Front National monte dans les sondages, le journalisme n'existe plus et derrière, la démocratie n'existe plus. Ce qu'il faut, c'est que ces affaires cessent. Le travail des journalistes, c'est de montrer, quand ils s'écartent du droit chemin, c'est de le montrer.